Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. J'espère aujourd'hui vous faire découvrir ou partager avec vous l'admiration que l'on peut porter à l'un des écrivains arabes du XXe siècle, l'un des plus grands écrivains, Taha Hussein. Un écrivain qui fut à la fois poète, critique littéraire, essayiste, traducteur, romancier, mais aussi professeur, premier recteur de l'université d'Alexandrie, créée par lui, ministre de l'instruction publique en Égypte, mais qui est surtout considéré comme un rénovateur de la littérature arabe, tant par son style que par ses idées. Un écrivain dont les œuvres sont traduites dans le monde entier, un écrivain dont la vie elle-même est un roman, et nous allons en parler. Et pour découvrir ou mieux connaître Taha Hussein, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Canal Académie deux personnes qui chacune à leur manière l'ont connu, aimé, admiré. Amina Taha Hussein, tout d'abord. Amina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la petite fille de Taha Hussein, mais vous avez choisi la voie de l'indianisme. Vous vivez à Paris, où vous êtes conservateur en chef au Musée des Arts Asiatiques, guillemets, de la section indienne. Vous n'avez pas tout à fait suivi les voies de votre grand-père dans la culture arabe.
Je les ai suivies d'une manière détournée, puisqu'il prenait de toute façon une ouverture vers toutes les cultures et vers toutes les sciences possibles. Donc de cette manière, je pense avoir parfaitement suivi son exemple.
Et je reçois également M. André Miquel, professeur honoraire au Collège de France, titulaire de la chaire de langue et littérature arabe classique. André Miquel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le traducteur des Mille et une nuits dans l'édition La Pléiade, que les tomes 2 et 3 sortent en ce moment, c'est-à-dire à cet automne 2006, et que vous nous avez fait le plaisir de donner à Canal Académie une interview sur ce travail éditorial que l'on peut qualifier à la fois de magnifique et immense.
Je vous laisse la responsabilité de ces termes. Disons que c'est en tout cas un très gros travail, oui.
Alors Amina, je disais que la vie de Taha Hussein est un roman. Il a écrit cette vie dans une sorte d'autobiographie qui s'intitule « Le livre des jours » et qui est publié aux éditions Gallimard. Son enfance, ça commence comme un roman, mais un roman un peu triste, n'est-ce pas ?
Effectivement, c'est une vie qui est une page qui est romanesque, en quelque sorte. Tout est romanesque et on a l'impression, quand on lit son autobiographie, le livre des jours, qui est constitué d'ailleurs de trois livres des jours, écrits à trois périodes différentes et retraçant trois périodes différentes de son existence, on a l'impression de lire un roman et on se dit même parfois, quand on connaît l'homme, quand on connaît ses origines, quand on connaît la consécration qu'il a connue à la fin de sa vie, que cette vie a été écrite par un romancier qui n'était pas à quelques invraisemblances près. C'est effectivement une existence qui commence mélancoliquement d'une certaine manière, puisque c'est un enfant qui naît dans un petit bourg de Moyenne-Égypte, dans une famille qui est modeste et qui doit d'entrée de jeu faire face à toutes sortes de difficultés qui vont évidemment bâtir son caractère.
Naissance en 1889, donc dans la Moyenne-Égypte, vous le dites, dans une famille pauvre et très jeune, il est justement confronté à une grande épreuve.
Il est confronté à une double épreuve, qui est l'épreuve de la cécité, puisqu'il est atteint d'une ophtalmie mal soignée. Parce que justement, dans ce milieu rural, dans ce milieu entaché d'une certaine ignorance, on ne savait pas comment soigner. On n'avait pas les réflexes pour soigner au bon moment et de la bonne façon. Et donc, il est confié à un barbier de village qui lui applique une sorte de remède brûlant dans les yeux. Et évidemment, il perd la vue. C'est un premier drame, bien sûr. Premier drame, en fait, lorsqu'il deviendra un adolescent ou un homme mûr, c'est surtout le drame de l'ignorance, au fond. Parce que s'il n'y avait pas eu cette ignorance, cette désinvolture, cette insouciance dans la famille dont il est issu, il n'y aurait peut-être pas eu cette cécité, qui n'était pas une cécité congénitale, mais
accidentelle. Mais en même temps, cette cécité va développer chez lui une prodigieuse mémoire, puisqu'il va tout recueillir par l'oreille, et non évidemment par la vue, et ça va lui servir beaucoup.
Il dit notamment dans ce premier tome du livre des jours, enfin le premier livre des jours, celui qui retrace ses toutes premières années jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à son départ pour le Caire, il dit effectivement que lorsqu'il le souhaitait, toute sa personnalité se concentrait dans ses oreilles, et qu'il faisait parfois preuve d'une acuité qui pouvait percer les muraille, justement. Donc, développe une énorme mémoire et aussi une grande faculté d'introspection. Parce qu'évidemment, être aveugle isole, surtout quand on est un enfant. On ne peut pas participer aux jeux de ses frères et sœurs. Ils étaient nombreux, puisqu'il est issu d'une famille de 13 enfants. On est relégué à un certain immobilisme, à une certaine solitude, et avec précisément cette propension à mémoriser le moindre son, la moindre chanson, la moindre phrase échappée de la bouche d'autrui, eh bien il y a cette faculté d'introspection et de mémoire qui est à l'œuvre et qui ne quittera jamais.
Alors comme tous les jeunes Égyptiens, il commence par faire ses études à l'école coranique, c'est-à-dire il apprend à lire et à écrire à l'école coranique ou seulement à lire, je ne sais pas comment ça se passait.
Il est issu d'une famille pieuse et évidemment pour un enfant frappé donc de cécité à l'âge de 3 ans, il n'y a pas beaucoup de débouchés, il n'y a pas beaucoup de perspectives et donc on l'envoie effectivement au Koutab, à l'école coranique, apprendre par cœur le Coran et tout ce qui va avec. Et là aussi, bien sûr, cette mémoire est à l'œuvre et il assimile en très très peu de temps la totalité du livre sacré. Mais ce qui est intéressant par-delà cet exploit, c'est aussi de voir se dessiner en filigrane le tempérament de l'enfant, qui sera celui ensuite de l'homme mûr, et de voir justement comment, par-delà cet isolement, par-delà cette cécité, par-delà cette contrainte d'aller à l'école coranique, de rentrer dans ce carcan des études qui ne lui apporte pas déjà à cet âge-là une très grande satisfaction, se dessine précisément tout ce qui va faire ensuite la personnalité de l'homme fait, c'est-à-dire un tempérament frondeur, une personnalité exigeante, intransigeante. Toutes ces qualités sont à l'œuvre là, déjà, dans ce petit bourg de Moyenne-Égypte.
Lorsqu'il a 13 ans, il quitte ce petit bourg, justement, il quitte cette école coranique. Il va avec son frère apprendre et continuer des études au Caire, à l'université Al-Azhar. Comment se passent les études? Qu'apprend-on à cet âge-là? Il a 13 ans, on est encore très jeune.
Oui, il est très jeune. De tout son être, il aspirait à ce départ de la campagne vers la grande ville du Caire, vers la mosquée d'Al-Azhar, l'université, comme on disait donc, d'Al-Azhar. Et il part avec un frère et c'est là, au fond, qu'il fait l'épreuve la plus poignante de cette solitude et d'une certaine déréliction. Parce que tant qu'il était dans sa famille, il était entouré des siens, il était dans une atmosphère chaleureuse. Il y avait ses parents, il y avait ses frères et sœurs, il y avait ses amis. Mais lorsqu'il est au Caire, on le conduit, son frère en l'occurrence, ou un ami le conduit le matin à ses cours, et ensuite le ramène dans sa chambre, et là il est véritablement livré à lui-même. Et c'est une épreuve qui, pour lui, est véritablement traumatisante. Ces années qu'il attendait, qu'il appelait de tous ses voeux, ces années où il allait enfin donc découvrir la science, mot pour lequel il a, toute sa vie durant, une immense vénération, eh bien ces années commencent par être des années parfaitement éprouvantes sur le plan personnel, sur le plan psychologique. Et on éprouve à lire donc ce second livre des jours, celui qui retrace ces quelques années passées au Caire, une très très poignante émotion devant ce qu'a pu vivre cet enfant livré à lui-même, emmuré dans sa cécité, qui fait constamment l'épreuve de l'indifférence ou du manque d'égard des autres dans une grande ville populeuse et qui, malgré tout, continue à acquérir donc ce savoir qui pour lui est prédominant.
Il va arriver tout de même à l'âge de 19 ans, ayant fait ses études à l'université du Caire, donc on est en 1908, il va entreprendre aussi des voyages en France et il va aussi commencer des études en France. Il arrive en France en 1914, qui est peut-être pas la meilleure époque, mais enfin, il s'inscrit à la Sorbonne et il commence une thèse, je crois, sur Ibn Khaldoun. Vous m'excuserez de la prononciation, monsieur Michel. Un petit mot sur cet auteur, Ibn Khaldoun.
Tahoussen avait bien choisi, oui, parce que non seulement c'est un des plus grands écrivains de la littérature arabe, mais c'était un des plus grands penseurs et l'un des fondateurs de l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui, du genre historique. L'histoire des civilisations, l'histoire des religions, l'histoire économique, tout ce que l'on peut mettre sous ce mot.
Alors il est reçu, je suppose, brillamment à cette thèse de doctorat. Et je crois qu'il y a aussi un autre poète qui le fascine, c'est un poète syrien qui était aveugle lui aussi, qui est Mahari, qui vivait donc, je crois, au XIe siècle.
Oui, Abul Al Mahari, il met non seulement, il s'agit là aussi d'un des plus grands poètes de langue arabe, mais il y a entre Tahoussen et Mahari plus qu'une connivence, presque une fraternité. Puisque c'est un poète aveugle, Boulard Al-Mahari.
Déjà, oui.
Évidemment, on voit des affinités. Pour revenir un peu, si vous me permettez, sur les premiers itinéraires, il est intéressant de noter que le frère de Tahoussein à l'université El-Azhar est disciple de Mohamed Abdou, qui est un des grands noms de ce qu'on a appelé la Narda, la Renaissance, donc de la tentative d'adjournamento du monde arabo-musulman en cette fin du 19e, ce début du 20e siècle. Il est intéressant de remarquer aussi que El-Azhar lui a refusé le titre de diplômé et qu'il est allé à l'université Fouad Ier qui venait d'être fondée, d'où il est sorti premier diplômé de l'université du Caire. Il y a donc dans ses apprentissages, au sens large, de Tahoussein, toute une symbolique d'une Égypte au carrefour de la fidélité à la tradition et de l'ouverture à la modernité. Et pour conclure sur ce point, sur ces apprentissages, un des maîtres de Tahoussein à la Sorbonne a été Lançon, l'un des fondateurs de ce que j'appellerais la nouvelle critique historique de la littérature.
Aminata Hussein, est-ce à cette époque, lorsque Tahoussein est en France, qu'il fait des rencontres avec quelques grands écrivains français ?
Les rencontres importantes avec de grands écrivains français, il les fera en Égypte lorsqu'il sera déjà un universitaire, un homme de lettres ou consacré, et où beaucoup, justement, de ces écrivains français de passage au Caire viendront lui rendre visite.
Quelques exemples, alors ?
Il rencontrera à cette occasion Jean Cocteau, André Gide, entre autres.
Alors, Jean Cocteau, justement, que faisait-il en Égypte ?
Alors Jean Cocteau était parti en Égypte en mai 49, de mars à mai 49, pour une tournée de 3 mois, pour présenter un certain nombre de pièces, avec d'ailleurs Jean Marais. Et il a visité le Caire, Alexandrie, Beyrouth, Constantinople, etc. Et au Caire, il a éprouvé le besoin donc, de rendre visite à Tahoussein, qui jouissait déjà à cette époque d'une aura assez considérable.
Voilà, on a fait un saut dans le temps, je vous propose d'écouter justement quelques pages de ce que raconte Jean Cocteau à propos de sa rencontre avec Tahoussein.
Tahoussein est à l'index. Ses démêlés avec la censure paralysent sa plume. Il est aveugle. Il voit. Il voit plus loin qu'il n'est permis de voir en Égypte. Sa femme est française. Leur fils Claude fait ses études à Paris. J'admirais cet homme. Après ma visite, je le respecte. C'est une âme inflexible. On devine une force crainte. Cette force est sans doute plus grande que lorsqu'il était ministre. Elle augmente d'être dans l'ombre. On le consulte, on l'aime, on le déteste, on le craint. Il ne dit pas « on m'a lu », il dit « j'ai lu ». Il me parle de Britannicus et le juge non par l'oreille, mais par les yeux. Un soir d'opéra italien, il s'agaçait d'une chanteuse laide dont la voix était belle. « Peu m'importe sa belle voix, disait-il, elle est trop laide. » Le dimanche, il reçoit, et sans se tromper, présente les nouveaux venus et peut en faire, lorsqu'ils sortent, une description minutieuse. Il est d'origine paysanne, c'est un véritable aristocrate. Cet index et la langue arabe écrite qu'il emploie et que si peu de personnes entendent le maudissent superbement. En face de ces lunettes noires qui vous regardent, il semble que les vestiges de l'ancienne Égypte retrouvent un sens et cessent d'être des buts de promenade. Tahoussein est l'ex-doyen de la faculté des lettres. Politiciens, docteurs, égyptologues viennent se rassurer dans sa maison charmante où rien ne flotte, où cesse le vague, l'absence de contour. Il est oracle et simple. Sa femme et lui sont en dispute sur un point des parents terribles. Il me demande qui est exactement Yvonne. Je réponds, une mère-enfant. Ah, cela, dit-il, m'explique tout. Ma femme triomphe. Elle avait raison. Et il ne cherche pas davantage à défendre son point de vue. Il ne me l'expose même pas. Il estime s'être trompé. L'admet en une seconde. Il trouve que ce serait du temps perdu.
Retour avec vous, Aminata Hussein. On vient d'évoquer Jean Cocteau, mais je crois qu'il y a d'autres écrivains français qui ont beaucoup apprécié la rencontre avec votre grand-père.
Et réciproquement, car mon grand-père a beaucoup apprécié sa rencontre, notamment avec André Gide, pour lequel il avait une véritable admiration et une très grande amitié. Je possède à la maison, ou plutôt ils appartenaient à mon père, qui lui-même les tenait donc de mon grand-père, un certain nombre, quasi la totalité des livres d'André Gide dédicacés à Taha Hussein Bey ou à mon ami le docteur Taha Hussein, etc. Donc nous avons tous ces témoignages qui sont très émouvants. Gide a rencontré mon grand-père donc lors d'un de ses voyages, le second de ses voyages en Égypte, où il résidait dans la demeure de Gaston Viette, qui fut d'ailleurs l'un des traducteurs du Livre des Jours et aussi le directeur du musée d'art islamique du Caire à cette époque. Et c'est ainsi donc qu'il a rencontré Taha Hussein. Mon grand-père a d'entrée de jeu souhaité traduire en français certaines des œuvres de Gide, et notamment La Porte étroite, ce qu'il a fait. Car outre son œuvre colossale d'écrivain, de penseur, de journaliste, de polémiste, d'éducateur, etc., il a eu également une œuvre de traducteur assez considérable. Il a traduit notamment Racine, Sophocle, Égide, entre autres. Il y a eu d'ailleurs un échange de correspondance assez intéressante sur cette question de la traduction de La Porte étroite d'André Gide en français, car André Gide lui-même ne comprenait pas du tout pourquoi et comment ce texte, parmi tous les textes dont il est l'auteur, pouvait avoir quelque chance d'intéresser ou de parler à un public arabophone et musulman.
Alors nous écoutons la lecture de la lettre d'André Gide et la réponse de Taha Hussein.
Paris, le 5 juillet 1945. Monsieur, j'ai souvent marqué dans mes écrits le grand attrait qu'avait exercé sur moi le monde arabe et les lumières de l'islam. J'ai souvent et longtemps vécu en compagnie d'arabisants et d'islamiser, et ne serait sans doute pas le même si je ne m'étais jamais attardé sous l'ombre des palmiers après avoir goûté jusqu'à l'extase l'âpre brûlure du désert. J'ai su dépouiller alors les revêtements de notre culture occidentale et retrouver une authenticité humaine perdue. Mais jusqu'aujourd'hui, si j'ai beaucoup reçu, beaucoup appris du monde arabe, il ne me paraissait pas que la réciproque fût possible. Et c'est pourquoi votre proposition me surprend. Une traduction de mes livres en votre langue? Mais à quel lecteur pourrait-elle s'adresser? À quelle curiosité peut-elle répondre? Car, et c'est, m'a-t-il paru, une des particularités essentielles du monde musulman, l'islam à l'esprit humain apporte beaucoup plus de réponses qu'il ne soulève de questions. Me trompais-je? Il se peut. Mais je ne sens point grande inquiétude chez ceux qu'a formé et éduqué le Coran. C'est une école d'assurance qui n'invite guère à la recherche. Et c'est même par quoi cet enseignement me semble limité. Enfin, de tous mes livres, il n'en est point, eussé-je pensé, de plus étranger à vos préoccupations que ma porte étroite. En quoi cette insatisfaction mystique que j'ai peinte ici peut-elle toucher des âmes assises dans la certitude? Quel écho ces prières et ces appels chrétiens pourront-ils trouver parmi vous? Ils sont même si spécialement jansénistes et protestants qu'il y aurait grande erreur à juger d'après ce livre de l'état d'âme ordinaire des chrétiens. Même parmi nous, occidentaux, septentrionaux, cette forme de mysticisme reste exceptionnelle, et même parmi les âmes formées par la religion protestante. Et je mis dans ma porte étroite assez d'humanité authentique et commune, assez d'amour, pour émouvoir ceux qu'une instruction différente aura su maintenir à l'abri de semblables tourments. J'attends le succès de votre traduction pour le savoir et, quoi qu'il advienne, veuillez croire mes sentiments bien cordiaux. André Gide. Le Caire, 5 janvier 1946. Monsieur, mais non, vous ne vous trompez pas tout en faisant erreur. Vous avez beaucoup fréquenté les musulmans, pas l'islam. Et ceci à un moment très pénible de leur histoire, moment de grave décadence tant du sentiment que de la connaissance de leur religion. Ces musulmans que vous avez connus très simple et très ignorant, ne pouvait vous dire si le Coran proposait des réponses ou soulevait des questions. Ils étaient tout au plus capables de vous faire connaître le folklore de leur pays soumis à l'influence du désert voisin. Vous avez vu d'autres musulmans, bien au courant peut-être de votre culture occidentale, mais à coup sûr très peu familiarisés avec notre culture orientale. Quant aux arabisants qu'il vous a été donné de connaître, ils se souciaient, comme c'est leur métier de le faire, plus de la lettre que de l'esprit des textes. Les uns, pas plus que les autres, n'étaient en mesure de vous donner une idée exacte du Coran et de son influence sur les intelligences et sur les cœurs. Loin d'inviter à la tranquillité, l'islam pousse l'esprit à la réflexion la plus profonde et suscite l'inquiétude la plus tourmentée. Les 5 premiers siècles de son histoire en sont la preuve la plus convaincante. Cette tranquillité qui vous étonne, ce calme qui vous afflige, ne sont pas, croyez-le, le fait de l'islam, mais bien plutôt une importation étrangère. Vos rapports avec musulmans et arabisants ne vous ont pas permis de voir l'angoisse que l'islam a soulevée dans toute l'Arabie pendant les 2 premiers siècles de l'Égir, angoisse qui a donné à la littérature mondiale la poésie amoureuse la plus lyrique et la plus mystique. Vous avez été amené à croire que l'islam donne plus qu'il ne reçoit, et ce n'est pas exact. Il a beaucoup donné parce qu'il a beaucoup reçu. Il a commencé par recevoir judaïsme et christianisme, puis l'hellénisme, les civilisations iraniennes et hindoues. Tout cela, il l'a assimilé, en a fait une chose arabe, lui a fait donner ce qu'il pouvait donner et l'a transmis à l'Occident bien avant le XVe siècle. Quand on est arrivé à accomplir une telle tâche, on peut recevoir la culture de l'Europe moderne et on la reçoit bien. Vous surprendrais-je si je vous disais que La Porte étroite n'est pas le premier de vos livres traduits en notre langue ? De la symphonie pastorale, il existe depuis une dizaine d'années déjà une version en arabe plus d'une fois éditée. Une traduction de L'École des femmes a suivi celle de La Porte étroite. On projette d'offrir aux lecteurs d'ici les faux monnayeurs. Peut-être traduira-t-on bientôt les nourritures terrestres, Prométhée ou Palude. Il mérite certes votre confiance, cet Orient arabe qui répand votre message comme il l'a fait jadis des maîtres de l'Antiquité. Et comprenez notre joie de vous avoir parmi nous au moment que 2 de vos œuvres vont être connues du grand public musulman. Heureux serions-nous si leur succès pouvait vous assurer que l'islam sait recevoir comme il sait donner. Taha Hussein.
André Miquel, on évoquait justement l'œuvre foisonnante de Taha Hussein. Comment la définiriez-vous ? Quelle serait la manière dont vous pourriez la présenter ? En quoi est-il novateur, justement ? Quelles étaient ses idées pour réformer ? Fallait-il réformer la littérature ? Quels étaient ses points de vue ?
Certes, il le pensait, il avait raison. Réformateur, je crois, sur 2 plans. D'abord, on imagine mal ce qu'a dû être pour la langue arabe, qui n'avait plus évolué depuis, mettons, le XIVe ou XVe siècle, le choc de la modernité à partir du XIXe siècle. Et Taha Hussein est un de ceux qui ont œuvré, et le plus magistralement, pour faire de cette langue arabe ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une des grandes langues de communication universelle, à savoir une fidélité à l'architecture même de la langue arabe. Ça, c'est pas tellement difficile, parce que les structures morphosyntaxiques de l'arabe sont telles que vraiment elles résistent à l'épreuve du temps. Berke les a merveilleusement évoquées, où il évoque ces structures justement sur la mer de la modernité comme des îlots où Dieu peut être loge. Bon,
c'est tout.
Il n'y a rien à dire après ça. Bien. Donc, réformateur et puissant de la langue arabe, et alors sur le plan de la pensée, bien évidemment, un désir et une réussite de mettre l'activité intellectuelle du monde arabe au service du contemporain, à travers l'arabe et pour défendre précisément la présence de l'arabe dans le contemporain. Et le cas le plus exemplaire, c'est celui de son ouvrage de 1926 sur la poésie pré-islamique, qui lui a valu vraiment beaucoup d'ennuis.
Qui a fait scandale, maintenant dit.
On l'a accusé à la limite de désacraliser cette poésie, qui n'était pas du tout sacralisée d'ailleurs, puisqu'elle était profondément païenne, puisqu'elle était avant l'islam. Mais les choses étant ce qu'elles sont, on l'a accusé en effet, comment dirais-je, d'une atteinte insoutenable au trésor, au patrimoine. Alors qu'en fait, il appliquait à cette poésie arabe, peut-être à mes yeux, mais ça c'est un point de vue personnel, avec excès. Mais enfin, il appliquait à cette poésie arabe pré-musulmane les principes qu'il avait appris à la Sorbonne de Lançon et des autres. Donc un travail remarquable en tout état de cause sur cette poésie et qui a fait date, en effet, pour lui aussi, puisque dans sa vie, ça a été vraiment une très grosse épreuve.
Il en a eu plusieurs de ces épreuves, justement. Je notais qu'en 1928, il était doyen de la faculté des lettres du Caire, et il avait donc été promu, et tout d'un coup, on l'a démissionné.
En 32, oui.
Écarté, puis rappelé. Enfin, pourquoi ces allers-retours? C'était des questions politiques, il n'était pas bien vu par certains chefs politiques.
Parce que je crois que nous avons là déjà, ou encore, comme vous voudrez, un des phénomènes constants du monde arabe depuis sa création, enfin depuis l'avènement de l'islam, à savoir le problème, il se pose à toutes les sociétés, le problème du respect de la tradition et des accommodements nécessaires avec l'histoire. Et je crois que Taha Hussein est exemplaire de ces hommes qui ont voulu en effet tenir le pari d'une fidélité à la tradition à travers le Coran qu'il connaissait et qu'il exaltait, et d'autre part, l'ouverture au monde, puisqu'il savait, mieux que personne, que la civilisation musulmane exprimée par l'arabe n'était pas évidemment la seule civilisation au monde, et que les autres avaient peut-être quelque chose à lui apporter, comme il y insiste souvent, et comme ça avait été en effet le cas, au beau temps d'une première renaissance, je veux dire l'époque du califat abbasside de Bagdad, l'époque des rencontres, et pour moi, plus précisément, celle du plus grand calife de tous les temps, non pas Harun al-Rachid dont on nous rebat les oreilles, mais al-Ma'mun de 813 à 833.
J'espère qu'on aura un jour l'occasion de reparler de ce personnage fascinant. En 1942, Taha Hussein fonde une nouvelle université en Égypte, qui est l'université d'Alexandrie. Donc il en est tout de suite le recteur, mais il en était aussi professeur. Amina Taha Hussein, quel genre de professeur était votre grand-père?
Ça m'est difficile de vous répondre de manière très précise, car je n'ai pas connu mon grand-père à l'époque où il professait. Je l'ai connu à la fin de sa vie. Je sais simplement par oui-dire familial, si j'ose dire, que c'était un professeur que ses étudiants vénéraient. Généralement.
Oui, certainement.
Il avait véritablement, comme on dirait aujourd'hui, un immense charisme et il suscitait souvent la ferveur ou, au contraire, parfois la controverse la plus impitoyable. Mais ses cours ne laissaient pas indifférents. En tout état de cause, mon grand-père n'a jamais été un tiède. C'était un homme qui n'était pas exempt de contradictions. C'était un homme d'une exigence très très grande. Il croyait en l'excellence, en la vertu de l'intellectuel, dans le rôle et dans la mission de l'intellectuel. À cet égard, il était intransigeant. On l'a souvent accusé de retourner sa veste pour parler familièrement, de changer de regard, de changer parfois d'affiliation politique. Mais c'était précisément parce qu'il estimait qu'il fallait évoluer, que les choses évoluaient, qu'on ne pouvait pas rester campé sur une opinion qui avait été faite une fois pour toutes. Et c'est ce qui rend d'ailleurs justement cette vie mouvementée tellement riche et tellement édifiante à bien des égards. C'est précisément ce caractère polémique qui s'attache en quelque sorte à sa vie et à son œuvre.
En 1950, il est nommé ministre de l'Éducation. Quel chemin parcouru entre le petit garçon, 3 ans dans un village, aveugle, et puis finir ministre de l'Éducation. Quand on a commencé cette émission, on a dit que sa vie était véritablement un roman, mais c'est vrai.
C'est véritablement un roman, voire un conte de fées. Et ses parents, ses modestes parents, qui considéraient leur fils comme une âme singulière. Ils avaient quand même compris que dans leurs 13 enfants, celui-ci était un être à part, était une âme singulière. En tout cas, c'est les termes qu'il utilise dans le Livre des Jours. Ses parents, si on leur avait dit « Votre fils partira un jour pour la France », France, étudiera le français, épousera une Française, puisque ma grand-mère était française.
Oui, on a oublié de le dire, Suzanne.
Elle a joué un rôle
très important, oui.
Ce serait exclamé, mais enfin Paris, où est-ce donc ? Est-ce que c'est au nord ou au sud du Caire ? Et le français, qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est véritablement une épopée qui est assez extraordinaire.
Alors, en tant que ministre de l'Éducation, quelles mesures votre grand-père voulait-il imposer en Égypte pour, j'allais dire, faire passer ses idées, ses convictions ? Qu'a-t-il fait ? Quelles ont été ses décisions ministérielles ?
Ses décisions ministérielles, c'était de rendre en quelque sorte l'éducation obligatoire et accessible à tout un chacun.
Ce n'était pas le cas en 1950 ?
Ça n'était pas le cas en 1950, loin de là. Et donc c'est une des mesures qu'il a effectivement pu réaliser durant le bref intervalle de temps où il a été ministre, où il a un rôle donc politique à jouer. Et comme je vous l'ai dit, c'est le combat qui, depuis sa toute première enfance, au fond, même s'il n'était pas encore formulé en tant que tel à l'époque, c'est cette prise de conscience des ravages de l'ignorance qui a ensuite guidé toute sa carrière.
Car la misère va avec la pauvreté, oui, en tout cas, va avec l'ignorance, c'est ça, oui.
C'est pour ça, par référence, qu'il a aboli les frais de scolarité dans les écoles d'État. Ce qui était une véritable révolution à l'époque. Oui.
Il a donc institué une éducation gratuite, laïque, je ne sais pas, obligatoire en tout cas.
Obligatoire, au moins, je
pour
ne peux pas vous dire, mais au moins pour le primaire.
Oui. Pour les garçons et les filles.
Pour les garçons
au moins
et
pour
les
le primaire.
André Miquel, quel était l'islam de Taha Hussein ? Je crois qu'il voulait un islam d'ouverture. Quelle figure aurait-il aimé présenter de l'islam aujourd'hui, alors qu'on voit un islam si dur, si rigide ?
Autant que je puisse me souvenir, car ce sont des lectures très anciennes, Taha Hussein était de ceux qui pensaient qu'il fallait revenir à l'esprit du Coran. Autrement dit, à distinguer dans l'islam ce qu'était le message fondateur des formes que le message avait prises dans l'histoire et sur lesquelles peut-être il faudrait revenir. Sa vision du Coran était celle-ci. Quel est le message de Dieu aux hommes ? Croyez en moi, croyez à mon unité. Travaillez, puisque je vous ai donné la raison et l'intelligence, et essayez d'être heureux, et dans ce bonheur, essayez de trouver la fraternité avec tous les autres. Je crois que c'était à peu près cela. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est dans cette vie, le parallèle entre d'un côté l'homme le critique fondateur pour son pays, pour sa tradition, d'une histoire, nouvelle histoire littéraire fondée sur les acquis de la sociologie, de la psychologie, et de l'autre côté, le trajet de la personne qui, lui, pratiquement, je dirais, est d'un romantisme achevé. Il y a d'un côté l'homme, j'ai relevé, auteur de 1481 articles, 61 volumes, éditeur de 8 textes et traducteur de 11 ouvrages, donc un homme engagé à plein dans l'existence, et de l'autre côté, ce cheminement du jeune aveugle vers sa destinée. Et si vous me le permettez, j'évoquerai la seule rencontre que j'ai eue avec lui à l'automne 1961 au Caire. Il avait donc 72 ans. Je n'ai pas souvenir de ce que nous nous sommes dit, sans doute des paroles convenues pour une première rencontre, lui m'encourageant à poursuivre dans la voie de l'apprentissage ou des recherches en arabe, moi lui disant mon admiration. Mais j'ai gardé le souvenir d'une silhouette, comment dirais-je, qui était l'image de la rectitude corporelle et intellectuelle. L'image debout, celle de, je le dis très respectueusement, j'espère qu'on ne déformera pas ma pensée, d'un aveugle qui voit peut-être, qui voit sans doute plus loin que nous.
C'était un joli portrait, en effet. C'était aussi un homme religieux. Vers la fin de sa vie, il a effectué le pèlerinage à la Mecque, comme tous les musulmans pieux. Il avait envie de réunir l'Orient, l'Occident. Quelle était sa pensée par rapport à cela ?
Oui, je crois que c'est effectivement l'un des combats de sa vie, et de son œuvre, d'ailleurs. C'est ce que d'aucuns lui ont reproché, d'ailleurs. On l'a taxé d'excès d'occidentalisme, pour faire court. Mais oui, il pensait effectivement que c'est de ces confrontations. En ce sens, il est très moderne. C'est quelqu'un qui a promu le dialogue des cultures, comme on dit aujourd'hui, comme on dirait à l'UNESCO, par exemple. Il est très moderne de ce point de vue-là.
C'est aussi un homme auquel on a tout de même, vers la fin de sa vie, il est mort en 1973, rendu les hommages. Il a eu des obsèques nationales, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Avez-vous pu vous y rendre ?
Malheureusement, non. C'est mon père qui s'y est rendu.
Votre père s'y est rendu. Oui. Il avait une notoriété internationale. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, André Michel, de son livre qui s'intitule « L'avenir de la culture en Égypte », qui a été, je crois, un des manifestes de la culture arabe, de la modernité arabe ?
Oui, et je vous avoue que là, vraiment, mes souvenirs sont trop lointains. Mais je ne crois pas me tromper en disant que c'est un livre qui prêchait pour ce dont nous parlons depuis déjà un petit moment, à savoir, si vous voulez être fidèle à votre tradition, regardez aussi vers les autres. C'était la tradition, la grande littérature arabe du Moyen-Âge, sous le califat de Bagdad. C'est là. Et finalement, c'est dans cet échange que l'on donne et que l'on reçoit le plus. On ne donne rien pour rien, nous le savons, mais on ne reçoit pas non plus rien pour rien.
Si vous souhaitez approfondir votre découverte de Taha Hussein, je vous rappelle donc que son ouvrage « Le livre des jours » est publié dans la collection « L'imaginaire » chez Gallimard, que l'on peut également lire des extraits de ses œuvres, des textes choisis et présentés par Jacques Berck et dont certains sont traduits par André Michel. Cet ouvrage s'intitule « Au-delà du Nil ». Il est publié également chez Gallimard. Et enfin, un troisième ouvrage qui s'intitule « La traversée intérieure », qui doit être le troisième tome, je pense, n'est-ce pas, du livre des jours, en fait. Donc là, je pense qu'il est repris dans la collection « L'imaginaire » de Gallimard. Eh bien, merci Aminata Hussein de nous avoir évoqué votre grand-père et cet homme extraordinaire. Merci André Michel. Et j'espère que nous aurons une autre occasion de vous recevoir sur Canal Academy. Et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter deux lectures. La lecture de la préface qu'André Gide a écrite pour le livre des jours de Taha Hussein et le début de ce livre des jours, car vous verrez que c'est un livre qu'on a envie de poursuivre. Je vous remercie.
Préface. Un extraordinaire dépaysement de la pensée, c'est ce que j'éprouve d'abord en lisant le livre des jours. Il s'y ajoute une autre étrangeté. C'est l'œuvre d'un aveugle, et d'un bout à l'autre de son récit, l'auteur ne nous le laissera pas oublier. Il retrace avec minutie ses premières expériences d'enfant sans cesse attentif à ne pas laisser paraître sur son visage cette disgrâce des ténèbres qui si souvent obscurcit la physionomie des aveugles. Ses premiers contacts avec le monde extérieur sont presque tous, hélas, vulnérants. Il nous peint ce monde qu'il ne peut voir et dont il ne prendra connaissance que par les multiples petites blessures qu'il en reçoit. Ses parents sont de pauvres gens et leur prévenante tendresse ne suffisent pas à préserver l'enfant des heurts douloureux. Emmuré dans sa cécité, il ne peut participer aux amusements des autres enfants de son âge, non plus qu'il ne pourra plus tard, lorsque nous le suivrons au Caire, accompagner dans leurs divertissements les étudiants de l'université, ses condisciples. Mais cet isolement dont il souffre sans cesse et le repliement involontaire qui s'ensuit développeront à son insu les qualités les plus rares de moraliste, de critique et de poète qui feront de lui par la suite le plus éminent représentant de la littérature musulmane d'aujourd'hui. C'est aussi que s'est éveillé très tôt chez l'enfant un impérieux désir de s'instruire, de cultiver son esprit, de s'élever au-dessus du misérable milieu où longtemps il doit végéter. Il importe d'abord qu'il en sente et comprenne l'effarante médiocrité. Or, autour de lui, tous acceptent. Ce n'est même pas de la résignation. Il y a sagesse, lui dira-t-on, à prendre son parti d'un mal et même à ne point considérer comme un mal l'inévitable voulu par Dieu. Mais, sous son aspect craintif, Taha Hussein est un révolté. Son apparente modestie n'est que le revêtement d'un immense et légitime orgueil. Il prend conscience de sa propre valeur, de son esprit de contradiction et de son penchant à la rébellion, à la faveur d'une petite algarade avec ses parents qu'il relate avec sa minutie coutumière. et tout au long de son long récit s'exerce un esprit critique d'une causticité singulière, mais particulièrement dans la seconde partie du livre, lorsque l'enfant a quitté son village natal pour aller suivre au Caire les cours des divers maîtres réputés. Quel maître ! Et quel enseignement que le leur ! Oncle ne vit rien de plus sot, de plus pédant, d'une fadeur plus exaspérante que ses professeurs du collège Henri IV, écrivait Renan dans ses cahiers de jeunesse. Et après avoir passé en revue quelques-uns de ses pantins sinistres, des embarrasseurs, comme on dit en Bretagne, de faux savants, qui peuvent être pédants sans crainte, il ajoute « Je me convainc toujours, de plus en plus, le toujours est bien utile, mais rien de plus lâché que l'écriture de ses cahiers, que cette éducation est radicalement fausse, que ces hommes sont pitoyables et d'une prétention inexprimablement comique. Rhéteurs et grammairiens, c'est Renan qui souligne, pas autre chose. » L'éducation en est au point où elle en était dans les premiers siècles de notre ère, livrée à de pitoyables trafiqueurs de paroles. Je me remémorais ces lignes en lisant le Livre des Jours. Et la peinture que fait ici Taha Hussein des tristes maîtres dont il lui fallait au Caire écouter les cours n'est pas moins sombre que celle de Renan à laquelle elle me fit penser. Mais sans doute était-il plus facile à l'étudiant français de s'émanciper qu'à l'élève soumis aux disciplines coraniques où tout conspire à domestiquer, à asservir. Ancestrale coutume et routine, absence d'exemple libérateur, d'encouragement, de compréhension alentour. Ajoutons pour Taha Hussein cette affreuse nuit où le maintient son infirmité. C'est là ce qui le rend si attachant ce récit, en dépit de ses lassantes lenteurs. Une âme est là, qui étouffe, qui veut vivre et qui se débat. Et l'on doute si des ténèbres qui l'oppressent, celles de l'ignorance et de la sottise, ne sont pas plus épaisses encore et redoutables et mortelles que celles de la cécité. Elles enveloppent, celles-là, l'Égypte entière, plus assoupie qu'une momie, et ligotée des bandelettes de l'érudition vaine, de la récitation des textes vétus, de la ratiocination et rumination du passé. Aucun sursaut de l'esprit n'est venu la secouer et réveillée d'entre les morts. Elle ne cherche plus dans l'islam qu'une confirmation de son sommeil spirituel et emprisonne la science dans des sourates dont elle a fait de chaque terme un verrou. Sait-il bien son Coran ? Cela seul importe, et le moindre lapsus prend l'allure de catastrophe. Alors je m'émerveille. Et quoi, cet enfant ? C'est cet enfant aveugle qu'Allah va fournir à l'Égypte et qui sera son guide clairvoyant. Après, quel effort surhumain pour d'abord regarder lui-même se réveiller d'entre les morts. Et l'on ne sait ce qu'il sied d'admirer le plus, sa confiance en soi, son intelligence, son légitime orgueil, ou l'intervention angélique de celle qui comprit sa valeur dont l'assistance et le dévouement permet à cette valeur un signe de vrai. Nous ne la connaissons, cette intervention, que par une discrète allusion dans l'épilogue de la première partie de ce livre, où l'auteur, s'adressant à sa fille, l'invite à reporter ses regards sur celle qui a changé en joie la misère de son âme, fait de son infortune un bonheur et de son désespoir une espérance. L'œuvre littéraire de Taha Hussein, née en 1889, est considérable. 20 volumes de critiques et d'essais, le premier paru en 1972, dont 5 sur le théâtre français, 6 romans, 3 recueils de contes, des traductions en arabe de Sophocle et de Racine, grâce auxquelles Andromaque et Électre purent être applaudis par le public musulman du Caire. Enfin, ce livre des jours, traduit déjà en 8 langues, où l'auteur relate les souvenirs des premiers temps pénibles de sa vie disgraciée d'infirme. Le récit, à notre grand regret, s'arrête avant la recouvrance que, toutefois, il nous laisse un peu pressentir. Espérons que Taha Hussein le poursuivra. Car le plus intéressant reste à dire. Son premier contact avec l'étranger, l'initiation, les étapes de ce lent progrès de l'aveugle vers la lumière. Ceux qui connaissent Taha Hussein B., qui savent quelle influence il exerce, l'autorité que ses mérites enfin reconnus et sa haute situation lui confèrent, le rayonnement de sa seule présence, comprendront la distance énorme et qui semblait infranchissable entre sa glorieuse situation actuelle et la déréliction de ses débuts. C'est le franchissement de cet abîme qu'il importe à présent qu'il nous dise. De mon dernier voyage en Égypte, ma rencontre avec Taha Hussein reste le souvenir de beaucoup le plus important, le plus beau. Quelle sérénité tranquille dans son sourire, j'allais dire dans son regard. Quelle aménité dans le ton de sa voix. Quel charme et quelle sagesse dans ses propos. L'on se promène avec lui dans le jardin de la connaissance et l'on s'étonne de ne le surprendre en défaut sur rien. Les auteurs des langues étrangères lui sont devenus familiers et sa mémoire tient du prodige. L'on attend qu'il nous dise comment il a pu apprendre si bien notre langue, sans doute instruit par la reconnaissance et l'amour. L'histoire aussi de ses découvertes successives, de ses acquis intellectuels, de ses premiers ravissements. Un goût sûr, un esprit critique à l'affût et sans cesse averti l'ont guidé dans le choix de ses lectures. Il s'intéresse à tout et sa curiosité, tard éveillée, reste jeune et comme affamé. J'admirais la pertinence de ses critiques et tout à la fois la générosité de ses enthousiasmes et la violence de ses oppositions. Entre toutes choses de lui, j'aimais son rire, pur, amusé, joyeux, comme le rire des enfants. J'ai appris que ses premiers écrits sur les poètes pré-islamiques, ou plutôt contre eux, firent scandale. Dans ce monde arabe, trop dispos aux stagnantes vénérations, la révolte est le commencement du progrès. L'Égypte n'avait pas connu comme la Grèce, sa voisine, de ses réveils successifs, de ses glorieux sursauts lyriques, capables de rénover la langue antique, de la maintenir en constante haleine pour l'expression de pensées et de passions nouvelles. La littérature arabe restait figée, et le parler populaire s'écartait d'elle, de sorte que l'écriture savante, seule admise, approuvée, enseignée, devenait de plus en plus impropre à exprimer quoi que ce soit d'actuel, de vivant. Je ne m'étonne pas beaucoup d'entendre dire que l'émancipation apportée par Taha Hussein porta d'abord et principalement sur le langage même, car il n'est pas de révolution intellectuelle et morale qui ne nécessite et n'entraîne un renouveau formel, une refonte de l'expression. Cette joie immédiate de l'écriture, hélas, nous ne pourrons pas la goûter. Si bonne que puisse être la traduction du livre des jours, elle ne peut nous faire entrevoir ce que le récit de Taha Hussein apporte en son pays de nouveautés. Au surplus, quand elle serait perceptible, les hardiesses de présentation et de style ne sauraient nous surprendre. Nous sommes depuis longtemps blasés. Mais ce qui nous surprendra peut-être, saoulés que nous sommes, en littérature du moins, de banqueroute et de faillite, c'est l'exemple enfin d'une réussite, d'un triomphe de la volonté, d'une patiente victoire de la lumière spirituelle sur les ténèbres. Par quoi ce livre exotique et inactuel est si noble et si réconfortant. André Gide, février 1947. Le livre des jours, chapitre 3. Il était le septième de 13 enfants du même père, le cinquième de 11 de la même mère. Mais il sentait qu'il avait dans ce nombre imposant de jeunes gens et de petits garçons une place toute particulière, distincte de celle de ses frères et de ses sœurs. En était-il satisfait ? En souffrait-il ? La vérité est que cette question reste entourée d'obscurité et d'incertitude et qu'il ne peut aujourd'hui formuler sur elle un jugement sincère. Il devinait chez sa mère la tendresse et l'indulgence. Il trouvait chez son père douceur et bonté. Il sentait chez ses frères une certaine sollicitude dans leur façon de lui parler, de s'occuper de lui. Mais rencontrait parfois chez sa mère une imperceptible nuance de dédain et d'autres fois de brusquerie. Il croyait aussi percevoir chez son père la même nuance de dédain, quelque peu distant, et l'éloignement de temps à autre. De même, la sollicitude de ses frères et sœurs le blessait parce qu'il voyait une certaine pitié mélangée de mépris. Cependant, il ne tarda guère à connaître la cause de tout cela, car il sut que les autres gens avaient quelque chose de plus que lui, et que ses frères et sœurs pouvaient entreprendre des tâches qui restaient au-dessus de ses moyens. Il sentait que sa mère leur permettait des choses qu'elle lui interdisait, et cela l'irritait. Mais cette irritation se changea bientôt en une mélancolie silencieuse et profonde. Elle lui vint d'entendre ses frères décrire des choses dont il n'avait aucune connaissance. Il sut alors qu'il voyait et que lui ne verrait jamais.